Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 20h dans les débats d'Europe Soir. Et vous l'aurez remarqué, c'est une journée très verte ou très au vert précisément ce dimanche, puisque plusieurs mairies ont mis en place la journée sans voiture. Nous verrons dans un instant ce qu'on en pensait les Parisiens notamment. Et que surtout les Verts ont élu leur finaliste avec Yannick Jadot qui arrive donc en tête de la primaire écologiste à 27,7%. Il est en train de parler en ce moment, et Sandrine Rousseau, pas loin derrière, 25,14%. Voici donc les deux finalistes de cette primaire des Verts. Nous serons en direct de là où se tient cette première intervention. Je vous le disais, Yannick Jadot est en train de parler. Analyse, décryptage, commentaire avec nos débatteurs. Et les socialistes dans tout ça? Eh bien, Olivier Faure assure que le PS sera la surprise de la présidentielle. Mais d'une punchline, il n'a pas oublié de préciser que la gauche et l'écologie devaient se rassembler. Main tendue, les Verts, on en parle, la journée sans voiture aussi et le PS aussi. Après l'excellent journal de 19h de Sophie Tussaud, retour sur la crise des sous-marins. Car hier, Jean-Yves Le Drian a haussé le ton. C'est une crise, a-t-il dit, aux 20h de France 2, car Emmanuel Macron et Joe Biden doivent se parler dans les prochains jours, car Xavier Bertrand, interrogé ce matin, demande un sommet extraordinaire de l'OTAN, car à l'inverse, Jordan Bardella, ce matin, dans le grand rendez-vous d'Europe 1, demande que la France quitte tout simplement le commandement militaire intégré de l'OTAN. Beaucoup de déclarations, mais qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans cette crise? Que peut faire David contre Goliath? Et que penser de ce nouveau visage bilatéral Washington-Londres, puisque contre l'Europe, c'est bien Boris Johnson qui est victorieux dans cette histoire. On en parle tout à l'heure vers 19h15. Et puis, ça ne vous a pas échappé si vous êtes baladé dans Paris. Vous avez pu voir l'Arc de Triomphe bâché, empaqueté par cristaux. 14 millions d'euros pour ça, il y a les pour, il y a les contre. L'œuvre de Buren aussi à l'Elysée, 250 mètres de verrière recouverts de drapeaux bleu, blanc, rouge. Emmanuel Macron qui voulait sauver le patrimoine français, qui avait lancé le loto du patrimoine, sorte de mécénat national participatif. Quel bilan de cette politique du patrimoine alors que s'achèvent aujourd'hui les dernières journées du patrimoine de son quinquennat? Est-ce un succès ou plutôt un échec? On parle de tous ces sujets avec Alexandre Devecchio, bonsoir, rédacteur en chef au Figaro, avec Isabelle Florette, bonsoir, bonsoir. Députée MoDem des Hauts-de-Seine, vont nous rejoindre dans quelques instants Frédéric Dabi, le directeur général du pôle opinion à l'IFOP, et Alexis Bachelet, Europe Écologie et Vert, adjoint au maire de Colombes. À signaler dans l'actualité aussi, la situation sanitaire s'améliore en France. Un conseil de défense étudiera prochainement une adaptation des restrictions liées au Covid, d'abord au niveau local, dans les zones où le virus est le moins actif, puis au niveau national. Dans les colonnes du journal Le Parisien ce matin, le ministre Olivier Véran a déclaré que nous étions sur la bonne voie. Les obsèques d'Abdelaziz Bouteflika à Alger cet après-midi. L'ancien chef d'État décédé vendredi à l'âge de 84 ans est inhumé au carré des martyrs du cimetière d'El Alia. Emmanuel Macron présente ses condoléances au peuple algérien. Le président salue une figure majeure de l'Algérie contemporaine et un partenaire exigeant pour la France durant ses 20 années au pouvoir. Les quatre premiers touristes de l'espace, de SpaceX, sont rentrés sur Terre. Ils ont passé 3 jours en orbite. Un succès pour cette mission qui, pour la première fois de l'histoire, ne comportait aucun astronaute professionnel à bord. Et puis le football, 6e journée du championnat de Ligue 1. En ce moment, Marseille affronte Rennes. Et ce soir, le PSG joue contre Lyon à 20h45. C'est un match à suivre sur Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1? Et il est 18h.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Et en effet, nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nos 4 débatteurs qui sont désormais au complet. Et c'est donc Yannick Jadot qui arrive en tête de la primaire des Verts, en tête de la finale qui l'opposera à Sandrine Rousseau. Est-ce que nous sommes en ligne avec Océane Théard? Océane Théard, vous êtes au pavillon des canaux sur le bassin de la Villette où les candidats sont apparus publiquement. Yannick Jadot a pris la parole. Prise de parole avec des résultats hyper serrés finalement.
Eh bien oui, cela s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche et c'est la surprise face à ce duel sortant. Le grand favori, l'eurodéputé Yannick Jadot qui arrive en tête avec 27,70% des voix. Yannick Jadot qui est juste face à moi ici au pavillon des canaux. Et face à lui, c'est bien l'outsider de cette primaire, Sandrine Rousseau, qui arrive juste après avec 25,14% des voix. C'est donc ces deux candidats qui s'affronteront au deuxième tour de la primaire. Alors Delphine Bateau arrive, elle, en troisième position. opposition avec 22,32% des voix. Elle devance de très très peu le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui obtient 22,29% des voix. Les résultats étaient très serrés et Jean-Marc Governatori arrive bien derrière avec seulement 2,30%. 35% des voix. Alors les candidats arrivent ici au compte-gouttes à deux pas du bassin de la Villette pour prendre la parole face à la presse.
Merci beaucoup CNTR donc pour cette première, j'allais dire, prise de température puisque la soirée va être longue, j'imagine, pour les Verts. On va suivre les déclarations des uns et des autres. Alexis Bachelet, vous qui êtes le premier concerné et qui étiez pour Yannick Jadot dans l'histoire, vous êtes plutôt content, j'imagine, du verdict.
Oui, c'est un résultat qu'on attendait quand même. On espérait que Yannick Jadot puisse être en tête au premier tour. C'était quand même, il avait l'étiquette du favori. C'est pas toujours facile à porter, surtout dans les primaires et en particulier dans les primaires écologistes. Mais pour le coup, il a fait mentir les autres primaires, puisque d'habitude, les favoris étaient pas forcément en bonne position pour gagner. Mmh. Et là, faut dire quand même que Yannick Jadot est en position de remporter ce deuxième tour et donc d'être investi pour l'élection présidentielle.
Ça vous étonne ce 25,14%, donc deux points derrière de Sandrine Rousseau?
Écoutez, pour être honnête, en politique, plus rien ne m'étonne. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, dans tous les scrutins, que ce soit des scrutins internes ou des scrutins au suffrage universel, il y a des formes de radicalité qui s'expriment. Mmh. Voilà. Et qui font, qui fédèrent. Voilà, y a des... Sur tous les chiquiers politiques, vous avez des gens qui disent voilà, l'avenir de ma famille politique, c'est la radicalité, ou qui disent il faut des postures radicales pour résoudre la crise climatique, pour résoudre la crise sociale, pour résoudre
la crise
économique.
Donc il faut en avoir peur, vous le craignez ça?
Donc je le crains si jamais ça devait l'emporter, parce que je crois que cette ligne politique, elle serait mortifère pour les écologistes.
Mortifère?
Bah, mortifère pour l'élection présidentielle. On sait très bien que l'élection présidentielle, c'est une élection où il faut rassembler les Français et essayer d'élargir sa base. Donc il ne faut pas parler uniquement aux militants de la première heure et aux plus convaincus, et en plus aux plus radicaux des convaincus, parce que là vous êtes foutus. Enfin, je ne sais pas, il y a Frédéric Dabi, il est là, lui c'est son boulot, il va vous l'expliquer. Moi, c'est une analyse que je vous fais parce que...
J'aime bien votre manière de rejeter la patate chaude. Voilà, Dabi va vous l'expliquer, il est sondeur, après tout, il sait mieux que moi.
Mieux que moi.
J'essaye quand même, c'est normal que je vous ai passé la parole en premier, vous êtes le premier concerné, vous étiez pour Yannick Jadot, il y a deux points d'écart entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, et un tout petit peu plus, je crois qu'Éric Piolle est à 23, donc... voilà, on a un candidat...
Et Delphine Bateau qui fait aussi un très bon score, 22%. Donc on voit bien qu'il y a des équilibres des quatre candidats qui se tiennent.
Voilà.
Effectivement, sans doute pour beaucoup de
observateurs. En gros, on a un camembert divisé en quatre, quoi. Hein, c'est ça.
Oui.
Donc c'est pas non plus un score, j'allais dire,
stratosphérique
de Yannick Jadot.
Si on devait résumer ça d'une métaphore sportive, on dirait que Yannick Jadot n'a pas tué le match au premier tour. Vous voyez, c'est clair. Il va y avoir un deuxième tour qui sera peut-être plus serré que ce qu'on pouvait l'imaginer. Ceci étant dit, Yannick Jadot, comme je l'ai dit, avait l'étiquette du favori. Il a malgré tout fait un score qui le place en tête. Et à partir de là, il est le plus à même, je pense, de rassembler la famille politique des écologistes qui, effectivement, on le voit bien, entre Delphine Bateau, Sandrine Rousseau, c'est pas les mêmes lignes politiques.
Non, c'est pas les mêmes lignes politiques.
Vous voyez, entre Piolle et Jadot, bon, il y a eu des sensibilités. Mais après, effectivement, on est aussi parfois de l'ordre de la sensibilité. Il n'y a pas non plus forcément des abîmes entre tout le monde. Et donc, le but maintenant au deuxième tour, c'est de choisir celui qui peut, celui qui peut le mieux représenter l'écologie politique à l'élection présidentielle.
Très bien, point taken. Frédéric Dabi, justement, comment le sondeur analyse ce camembert divisé en quatre?
Ça a été très bien dit, et vous le dites aussi, Pierre. Hein. Un mouchoir de poche. C'est extrêmement serré. Je crois que Éric Piolle, qui arrive en quatrième position, puisque Delphine Bateau a 300 voix de plus, rate le deuxième tour de moins de 3000 voix, ce qui n'est rien, même avec une base électorale assez restreinte, même si c'est le record de participation pour un scrutin interne à Europe Écologie des Verts. Deuxièmement, ce qui me frappe, c'est à quel point les deux qualifiés au second tour ont les positions les plus antagonistes. C'est les plus opposés. Yannick Jadot, c'est une écologie de gouvernement raisonnable. Sandrine Rousseau l'attaquait en disant qu'elle, c'était une écologie pour elle d'accompagnement quand elle voit la transformation. Sandrine Rousseau, c'est une écologie de rupture, radicale, très sensible à la pensée woke. Hein, on se souvient de sa première phrase pour annoncer sa candidature. Je suis là pour lutter contre toutes les humiliations. Et c'est vrai que c'est peut-être les deux candidats qui étaient les plus différents. Troisième point, on n'est pas sur une élection globale où les ralliements, les soutiens ne pèsent pas si fortement auprès du corps électoral. Là, comme le corps électoral est beaucoup plus restreint, c'est un corps électoral sans doute plus politisé. Que vont dire Éric Piolle et Delphine Bateau. Et dans ce cadre-là, l'un et l'autre, l'une et l'autre, peuvent être faiseur de roi ou de reine. On se souvient, en 2016, comme Nicolas Sarkozy, même si c'était gagné pour François Fillon, avait quand même tué le match en appelant à voter contre Alain Juppé et pour François Fillon.
Que dit le MoDem dans tout ça, Isabelle Florenne?
Je ne sais pas ce que dit le MoDem encore sur la primaire, c'est un peu tôt, mais en tout cas...
Ça vous étonne, ce assez haut score de Sandrine Rousseau, ou pas vraiment?
Moi, pas vraiment, parce que je crois que les primaires veulent ça. On l'a vu avec la primaire LR en 2016. Une forme de radicalité dans les discours, finalement, gagne ou a gagné. Pour le coup, les primaires montrent...
Et qualifié au second tour.
Pour le second tour. Voilà. Mais après, bon... Il y a quand même eu des discours. Un discours tranché.
Ce que veut dire Isabelle Florenne, c'est que ça fonctionne. Voilà.
Ça fonctionne. Ouais. C'est le pouvoir des marques, quelque part. Le pouvoir d'une marque s'afficher. Moi, je pense que c'est effectivement quand même une stratégie. En tout cas, Sandrine Rousseau a une stratégie de marque très claire. Elle a affirmé des choses. Je ne suis évidemment pas avec le MoDem d'accord avec ce qu'elle affirme. Mais en tout cas, il y a une identité claire, affirmée dans son discours. Et puis, pour filer la métaphore culinaire, c'est un 4 quarts, on se dit. Puisque finalement, les scores sont quand même très, très partagés. Donc, à suivre.
Alexandre Devecchio, du Figaro.
Alexis Bachelet a l'air serein, il est soutien de Jadot, mais en réalité, il faut dire ce qui est, c'est une défaite pour Yannick Jadot qui était quand même crédité jusqu'à 70% dans les sondages. C'est une défaite pour les sondeurs aussi.
Alexandre, ne parlez pas tous ensemble. L'IFOP n'a fait aucun sondage sur cette primaire car nous savions que le corps électoral était trop différent et trop peu connu. Donc ne dites pas qu'il y a une défaite pour les sondeurs si on n'a fait aucun sondage. Le seul sondage qu'on a fait, c'était avec vous, le Figaro, on a posé de la notoriété. Alors soyez sérieux.
Vous, s'il vous plaît. 18h08,
il y a déjà la cacophonie. Vous êtes intenable.
Non, pas l'IFOP, mais j'ai vu des sondages qui indiquaient que Jadot était à 60-70. Les analystes sérieux savaient qu'avec les VR, ça ne se passerait sans doute pas comme ça. Toujours est-il que la dynamique qu'il souhaitait insuffler au premier tour, il ne l'a pas, et que ça va être extrêmement serré, et qu'a priori, sur le plan idéologique, Piolle, qui arrive quand même en quatrième position, tout près de Delphine Bateau, est plus proche de Sandrine Rousseau, et même Delphine Bateau, alors c'est une ancienne socialiste, logiquement, elle devrait se rallier à Yannick Jadot. Est-ce que son électorat va la suivre? Pas sûr, elle a fait campagne notamment sur le thème de la décroissance, donc elle aussi, avec des positions assez radicale. Ensuite, justement, sur ces positions radicales, alors, mettons à part la décroissance, c'est une position radicale qui, je dirais, est respectable. On peut être contre. Je pense que c'est pas réaliste, mais c'est quelque chose qu'on peut admettre. Après, les positions de Sandrine Rousseau sont plus que radicales. Hélas, l'extrême gauche ressemble de plus en plus à l'extrême droite d'autrefois. Elle parle de raciser, elle fustige les blancs. Donc, elle est effectivement dans cette idéologie woke que moi, je trouve inquiétante. Personnellement, elle parle aussi d'accueillir les terroristes en expliquant qu'ils sont mieux en France. Donc, si les écolos venaient à se donner à Sandrine Rousseau, ce serait pas seulement quelqu'un de radical sur le plan écologique, c'est quelqu'un qui a des idées, à mon avis, anti-républicaines, il faut le dire. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que le parti n'exploserait pas, que Yannick Jadot suivrait Éric Piolle. Je pense que ça annoncerait peut-être une sorte de recomposition avec une partie des écolos qui irait du côté d'Anne Hidalgo. Et je suis pas sûr que Sandrine Rousseau pourrait aller au bout de son aventure présidentielle, et elle pourrait précipiter la dérive woke, je dirais, d'un autre candidat qui est Jean-Luc Mélenchon, et qui regarde de très près la candidature de Sandrine Rousseau. Bien sûr, on n'en est pas là, mais on voit bien que, en tout cas, dans ce parti cohabitent deux lignes, et pas tellement une ligne entre un écologisme radical et un écologisme pragmatique, mais une ligne d'extrême gauche qui flirte avec le racialisme, et une ligne
qui me paraît plus républicaine. Entendre les premiers mots de Sandrine Rousseau, justement, en ce moment.
Ambitieuse et décroissante, et Jean-Marc Governatori pour avoir porté une écologie centriste différente, mais importante. Cela montre une chose, le processus des primaires, c'est que nous sommes en capacité de gagner et d'aller jusqu'à l'Élysée. L'écologie est aujourd'hui une priorité, c'est une urgence. Le temps des petits pas et le temps de l'accompagnement n'est plus le moment. Aujourd'hui, il nous faut une écologie ambitieuse, une écologie sociale, une écologie qui ne faiblit pas face aux enjeux, une écologie de victoire. La société, et ce second tour le montre, est prête. Il nous faut, à nous, être à la hauteur de nos responsabilités. Je suis à ce second tour de cette primaire et ce résultat n'est finalement une surprise que pour les personnes qui n'ont pas saisi ou qui n'ont pas voulu voir les évolutions de la société, les modifications en son sein, qui prônent et qui portent des mesures ambitieuse, une politique courageuse et une incarnation différente. Mon slogan est « Oui, les temps changent ». Je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits à la primaire alors qu'ils ne croyaient plus en la politique et je voudrais les remercier.
Alors, voilà les tout premiers mots de Sandrine Rousseau que vous avez pu suivre en direct sur Europe 1. Ceux qui n'ont pas voulu voir, mesures ambitieuses, incarnations différentes, oui, les temps changent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette prise de parole? On la sent d'ailleurs assez, j'allais dire mesurée, mais en tout cas, elle est émue par ce score qui est, encore une fois, je ne veux pas dire inattendu, mais qui est en tout cas assez fort, Isabelle Florenne.
Oui, moi ça... Bon, moi, son score, déjà, il ne m'étonne pas. Je vous l'ai dit, je pense qu'elle a su parler à une partie d'un électorat sur notamment les questions, vous l'avez très bien dit, de racialisme, de woke. Tout ça, moi, pour moi, ne représente pas l'écologie. Ça, c'est un autre sujet, hein, mais c'est très éloigné, hein, oui, finalement. Là, je retrouve, j'ai l'impression qu'elle essaye de se raccrocher quand même un peu plus à l'écologie. Donc voilà, est-ce que maintenant ça va fonctionner finalement ce discours de rassemblement, je ne sais pas, il faut écouter l'intervention de Yannick Jadot pour savoir. Évidemment, je pense que Delphine Bateau va être un élément très important
pour
et sa décision.
Pour quelle raison?
Parce que c'est elle qui va qui donne le pivot et qui va être le pivot et qui si elle apporte son soutien effectivement Yannick Jadot, mais c'est pas gagné par rapport à un électorat, vous le disiez. Oui, qui, donc moi, je sais pas. Hein, je trouve que là, c'est très, très indécis quand même pour la suite.
Oui, c'est très, très indécis, compte tenu du fait qu'on a ce 4 quarts. Je reprends votre image gastronomique à l'heure du goûter. Mais ce que je trouve assez intéressant et plutôt bien joué dans son discours, qui reprend ce que vous dites aussi sur la primaire, c'est plutôt la radicalité de manière générale. François Fillon était peut-être le plus à droite sur les questions économiques. Ce n'était pas le cas pour la primaire socialiste de 2011, contre-exemple. Mmh. Mais elle a parlé de transformation, de la fin de la politique des petits pas. Elle s'inscrit moins dans l'action individuelle où chacun, à son niveau, peut faire avancer les choses en termes de climat. Elle annonce une certaine radicalité, peut-être une dimension collective. C'est ce qu'attendent beaucoup de jeunes. Beaucoup de segments plutôt favorables à Europe Écologie Les Verts. Donc, ça rend peut-être les choses plus serrées, même si, je le répète, et vous l'avez dit, ce que va dire Éric Piolle, ce que va dire Delphine Bateau vont être absolument capitales.
Alors, justement, parlons des interventions. On va tout de suite écouter ce qu'a dit Yannick Jadot, qui, je vous le rappelle, est le premier hein, qui réalise le meilleur score dans cette primaire.
On ne peut pas se payer, on ne peut pas s'offrir un quinquennat de plus d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron, « Make the planet great again » C'est le même qui sacrifie plus de 113 000 oiseaux au lobby de la cruauté et qui n'avait fait quasiment qu'une seule promesse en matière d'écologie, la fin du glyphosate. Et nous savons combien, y compris dans ce quinquennat, nous avons augmenté l'utilisation du glyphosate.
Voilà donc les déclarations de Yannick Jadot il y a quelques minutes, alors qu'il arrive en tête de cette consultation à 27,7%, Sandrine Rousseau à 25,14%, Delphine Bateau à 22,3% et Éric Piolle juste derrière à 22,2%. Ce sont des mots très forts là que utilise Yannick Jadot, comparaison avec Make America Great Again.
Oui, ce qui est très intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il enjambe l'élection interne, la primaire, puisque déjà, il n'est pas comme Sandrine Rousseau qui dit l'écologie de l'accompagnement versus qui ne serait pas à la hauteur des enjeux versus l'écologie de la transformation. Là, déjà, il installe un combat, même pas à gauche, mais face à Emmanuel Macron. Alors, c'est toujours dangereux d'enjamber une élection alors que l'élection n'est pas finie, mais on est vraiment sur deux personnalités et deux équations et deux stratégies qui sont complètement différentes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Bachelet, vous, le vert, alors que vous êtes en rouge aujourd'hui dans le studio ?
Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, Jadot s'est préparé depuis longtemps à cette échéance de l'élection présidentielle.
Donc il s'y voit déjà, comme disait Aznavour
Non, ce n'est pas qu'il s'y voit, mais c'est que je pense qu'on n'improvise pas une candidature à l'élection présidentielle où il faut non seulement se préparer à défendre des convictions et effectivement à avoir un programme d'alternance et de changement, mais il faut aussi être capable de porter la direction du pays. Voilà, c'est ça, c'est pas l'élection d'un parti, c'est pas simplement l'élection au sein d'une famille politique. L'élection présidentielle, c'est la direction de la France, qui est quand même un grand pays, avec évidemment des enjeux sur l'écologie en premier, mais aussi des enjeux économiques, mais aussi des enjeux sur le régalien, sur la politique étrangère, on le voit bien en ce moment, avec la crise diplomatique avec les États-Unis.
Donc, il n'a pas tort de griller, une étape, comme l'a dit Frédéric Dabi, et d'aller directement sur un discours quasi-présidentiel, alors qu'il est pour l'instant, normalement, dans un discours de finaliste de primaire écologiste.
Mais il est surtout sur un positionnement de rassemblement le plus large possible. Et aujourd'hui, il y a deux personnalités qui doivent aussi maintenant faire connaître leurs préférences. C'est Delphine Bateau et c'est Éric Piolle. Et je suis convaincu qu'ils sont dans l'état d'esprit de faire gagner le meilleur candidat.
Et non pas la
meilleure, mais c'est pas un problème de sexe, parce que la preuve, Delphine Bateau aurait pu être au second tour et elle aurait peut-être même pu l'emporter. Tout ça est très serré. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas te faire d'écriture inclusive à l'oral. Donc ce que je veux dire, c'est que,
je crois que ça doit être possible.
Non, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que clairement aujourd'hui, il y a une possibilité pour que Yannick Jadot l'emporte largement au second tour si les autres candidats prennent chacun leurs responsabilités. Et dans ces cas-là, effectivement, ça sera la meilleure rampe de lancement pour les élections présidentielles.
On va marquer une première pause et on suit bien sûr de très très près les déclarations qui vont peut-être venir, en l'occurrence celles de Delphine Bateau et d'Éric Piolle, pour évidemment, est-ce qu'ils vont en dire beaucoup plus sur leur choix ? On va voir. Suspense, suspense, nous sommes dans les débats d'Europe Soir, merci d'être avec nous.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et l'information de la soirée, c'est Yannick Jadot qui arrive en tête des finalistes de la primaire écologiste avec 27,7%. Derrière lui, à 25,14%, c'est Sandrine Rousseau. Derrière encore, Delphine Bateau, 22,3%. Et Éric Piolle à 22,2%. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec autour de la table Isabelle Florenne, députée Modem des Hauts-de-Seine, avec Alexis Bachelet, apparenté Europe Écologie Les Verts, adjoint au maire de Colombes, avec Frédéric Dabi, directeur général du l'opinion de l'IFOP, et mon confrère du Figaro, Alexandre Devecchio. Alors nous avons un autre sondage, et pardon, c'est pas l'IFOP,
c'est pas grave.
Mon cher Frédéric, c'est Odoxa pour le Figaro de vendredi, concernant justement le Parti des Verts n'est perçu ni comme réaliste à 58%, ni comme crédible.
Oui, j'avais les mêmes données dans une enquête IFOP faite pour le groupe LR de l'Assemblée nationale, qui montrait que d'un côté, Europe Écologie Les Verts était le parti qui suscitait le plus de confiance pour faire avancer la cause environnementale. Il y a l'effet en fait, dénomination, la marque ELV, mais c'est vrai également que l'effet un peu dévastateur de déclarations, de polémiques liées au maire Europe Écologie Les Verts avait eu deux conséquences fortes. Une majorité de Français, et y compris de gauche, considéraient que ces solutions n'étaient pas réalistes, et une majorité, avec un électeur de gauche sur deux, considérait que ce parti était sectaire. C'est un parti qui a peut-être loupé le coche. N'oublions pas ce qui se passe au lendemain des élections européennes. Yannick Jadot qui perd, c'est la troisième liste. Et on a vu aux élections municipales, des victoires symboliques très fortes, mais une incapacité à prendre le leadership à gauche, excepté la ville de Poitiers. Il n'y a eu aucune ville que Europe Écologie Les Verts a repris au Parti Socialiste. Même chose
aux Strasbourg, un petit peu. Quand même.
Strasbourg, c'était pas vraiment un maire socialiste. Le sortant ne s'était pas représenté et le premier adjoint a été marcheur. Et puis, on a vu, alors pour vous mettre d'accord, mon cher Alexis, aux élections régionales, Europe Écologie Les Verts n'a repris aucune région quand le PS était sortant et n'a pas été en situation de gagner une région quand c'était la droite. Donc, c'est un parti qui est entre deux eaux, une belle percée aux élections européennes qui n'a pas vraiment été confirmée.
Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire la route sans la gauche socialiste ? Olivier Faure, lui, tend la main, assurant qu'écologie et gauche vont bon train. Écoutez-le, c'était ce matin au congrès du PS.
Un jour, ils nous expliqueront que nous n'avons pas assez d'ambition pour le pays. Le lendemain, que nous en avons trop. Eh bien, qu'ils parlent de nous. Qu'ils parlent de nous encore, parce que nous sommes la surprise de cette échéance. Aucun d'entre nous ne pourra gouverner seul. Mais surtout, seul, aucun d'entre nous ne gouvernera. L'enjeu est bien là, et tout le monde le sait. Pour gagner et transformer ce pays, la gauche et l'écologie doivent se rassembler.
Alexandre Devecchio, c'est désormais acté. La gauche socialiste et les Verts vont rouler ensemble.
C'est pas acté du tout. Je pense que ça dépendra de l'issue de cette primaire. Je pense que si Jadot sort vainqueur, paradoxalement, même si c'est le plus proche du Parti Socialiste, oui. La guerre des égaux fera qu'il y aura sans doute deux candidats.
Hidalgo et Jadot.
Ouais. Si c'est Sandrine Rousseau, ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir une forme de recomposition. Je pense que Jadot est mille fois plus proche d'Anne Hidalgo que de Sandrine Rousseau. Et dans ce cas-là, l'union peut être possible. Je pense que d'ailleurs, c'est un scénario qui est crédible parce qu'encore une fois, c'est pas gagné pour Jadot. Moi,
vous dites qu'il y aura deux candidats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
de toute manière,
Jadot va torpiller Hidalgo ou au contraire?
De toute manière, il y aura deux candidats. Mais voilà, Sandrine Rousseau peut être une candidate qui fait, à mon avis, pchit, parce qu'il y a une différence effectivement entre le corps électoral des militants écolos et le corps électoral national.
C'est ce que
et
vous faites d'ailleurs comme grande différence lorsque vous faites les sondages.
Ah, tout à fait.
Les
sympathisants.
Et elle peut même être débranché en cours de route, ce ne serait pas la première fois. On se souvient d'Alain Lipiette qui n'avait pas été jusqu'au bout. Donc voilà.
Les moins de 20 ans sont perdus là.
Voilà. Et on voit que,
je suis.
Que Jean-Luc Mélenchon est intéressé déjà pour faire une OPA peut-être sur l'électorat de Sandrine Rousseau. Donc je vois bien les choses se dérouler comme telles. Maintenant, Yannick Jadot n'a pas perdu. Il est en tête, mais quand on écoute son discours de ce soir, moi je trouve qu'il est quand même sur la défensive. En fait, son principal argument, c'est voter utile. Si vous voulez un candidat écolo qui pèse face à Emmanuel Macron, votez pour moi. Mais est-ce que psychologiquement, c'est ce qu'il faut faire face à un corps électoral qui m'a l'air très déterminé, qui est sur des principes, etc., qui a voté Sandrine Rousseau. Peut-être qu'il faut peut-être. Il aurait peut-être dû se radicaliser
votre raisonnement.
Un peu. Dans une primaire, là, à mon avis, Jadot aurait dû suivre une stratégie, aller peut-être plus loin sur l'écologie, les faire rêver un peu, quitte à se recentrer ensuite, si vous voulez gagner la primaire. Là, il fait un peu le premier tour de la présidentielle, alors qu'on est dans une élection primaire.
Alexandre Devecchio, du Figaro, dans votre raisonnement, quand vous dites qu'il va faire cavalier seul, ça veut dire qu'il va faire cavalier seul en ne pensant pas à Hidalgo ?
Jadot, s'il gagne, je pense que s'il gagne, il y aura sans doute un élan, il sera crédité.
Il va faire semblant qu'elle existe.
De 6 ou 7% dans les sondages.
C'est crédible.
Anne Hidalgo aussi. Et je pense qu'ils vont se voir et s'annuler tous les deux. Donc, ils vont peut-être dire on a les points communs, etc. Mais à la fin, comme il n'y en a pas un qui l'emporte nettement sur l'autre, je vois mal l'un des deux se retirer pour l'autre.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Bachelet ? Vous m'avez l'air. Vous êtes depuis tout à l'heure, là, depuis que vous êtes arrivé en studio, vous êtes perplexe.
Il est sonné, Alexis. Non, non, mais c'est il est sonné par un sonné. Résultat qui est mauvais pour
pas
Yannick
du tout,
Jadot.
Pas du
mais
tout,
si, vous pouvez le dire maintenant, on est entre nous.
C'est ma quatrième primaire et le candidat que j'ai soutenu a toujours gagné. Donc, la candidate d'ailleurs. Ouais. Donc je suis très confiant. Ceci étant dit, il n'a échappé à personne qu'effectivement. Si on parle de stratégie par rapport à l'élection présidentielle, Sandrine Rousseau court un peu derrière Jean-Luc Mélenchon. Elle a été faire une photo avec lui lors des journées d'été de la France Insoumise. Donc, le plus probable, c'est qu'effectivement, si elle devait remporter cette primaire, ce que je ne crois pas, elle risque de s'effacer derrière Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, la famille écologique serait perdue et n'aurait pas de représentant à l'élection présidentielle. Et ça serait le plus grave. Yannick Jadot, lui, s'est déjà retiré pour Benoît Hamon. Et donc, là, il en a tiré aussi des leçons. Il a vu que ça n'avait pas fonctionné.
Donc,
je pense qu'il sera beaucoup plus déterminé à aller au bout de la candidature. Et ça, pour le coup, je suis convaincu que c'est un argument qui peut convaincre le corps électoral des écologistes qui veulent non pas courir derrière Jean-Luc Mélenchon, non pas courir derrière Anne Hidalgo, mais qui veulent un candidat ou une candidate qui porte le drapeau des écologistes. Et là, pour le coup, moi, je suis convaincu que Yannick Jadot est vraiment celui qui ira jusqu'au bout. J'en mettrai pas ma main à couper concernant l'autre finaliste.
Isabelle Florenne du MoDem.
Oui, moi je comprends quand même un peu la perplexité quand même d'Alexis Bachelet, parce que je sens à travers les candidatures et notamment ce morcellement des voix dans cette primaire, quand même, j'imagine une grande perplexité de l'électorat entre guillemets écologiste. Je dis bien entre guillemets parce que vraiment, dans les discours, en tout cas, quand même d'Éric Piolle et Sandrine Rousseau, de ce que j'ai pu suivre, je ne suis pas une militante de ce parti, mais je sens quand même des interrogations sur la ligne politique. Mais au-delà de ça, Europe Écologie Les Verts est comme beaucoup de partis à la veille de cette élection présidentielle, dans des situations et dans des recherches, et en tout cas dans des perplexités, on le voit bien à gauche. Et je pense que c'est une traduction de la perplexité d'un électorat face à des lignes qui sont, me semble-t-il, quand même très différentes. Donc, je suis d'accord avec ce que disait Alexandre Devecchio. Je crois que Sandrine Rousseau, vraiment très clairement, a un électorat qui se peut
donc,
si on fait de la prévision,
de se reporter surprise, voilà.
Vers Jean-Luc Mélenchon, de façon, en tout Frédéric cas, dans David. La ligne de pensée.
Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Ce que dit Alexis Bachelet est très juste. Les électeurs, je ne parle pas des militants, je ne parle même pas des sympathisants, mais des électeurs veulent que leur candidat ou leur force, ou leur parti dont ils sont le plus proche, soit représenté à l'élection présidentielle. Je vais prendre un autre exemple à gauche. Le petit mouvement qu'on voit dans les enquêtes, 3-4% en faveur de Fabien Roussel, c'est un électorat communiste en déclin qui se dit « oui, notre déclin est dû à l'effacement du PCF en 2012 et en 2017. Et si on remonte encore plus loin, là, ce n'est pas les moins de 20 ans, c'est les moins de 50 ans qu'il ne veut pas connaître. Le premier signe, pour moi, en termes sociologiquement, de l'affaissement du PCF, c'est le fait de ne pas avoir envoyé un candidat en 1974 et avoir laissé François Mitterrand prendre l'hégémonie à gauche qui n'a quasiment jamais perdu. C'est vrai aussi que Sandrine Rousseau, personne ne peut savoir, elle n'ira pas au bout, elle soutiendra Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas non plus dans une dynamique électorale incroyable. Il pourrait avoir, au contraire, parce que ce serait une figure nouvelle, une femme, elle se positionne très fortement sur l'éco-féminisme, il pourrait avoir, au contraire, une capacité de Sandrine Rousseau à mordre sur un électorat de Jean-Luc Mélenchon qui est déjà objectivement, ne croit de moins en moins à l'incarnation de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai que dans un contexte où l'électorat de gauche a largement intériorisé que le troisième 21 avril est extrêmement proche. On n'est pas dans le contexte de 2002 où c'était le coup de tonnerre, personne ne l'a vu venir. On n'est pas dans le contexte 2017 où certains se disaient Emmanuel Macron est peut-être un petit peu de gauche. Là, on voit l'électeur de gauche type sait que le 21 avril est proche. Donc la logique de vote utile, s'il y a une poussée Yannick Jadot après son éventuelle victoire, le vote utile peut être extrêmement fort. On se souvient qu'en 2017, Benoît Hamon était devant Jean-Luc Mélenchon fin janvier, mais bon, il n'avait jamais su profiter de la dynamique post-primaire.
Mais alors justement, au vu de ce qui vient d'être dit par vous quatre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on pourrait croire? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Anne Hidalgo? Parce que c'est quand même intéressant, là, ce que vous dites, et vous faites référence à Mitterrand en 1974, vous avez tout à fait raison, il y avait un candidat unique parce qu'il y avait eu un méga congrès et qu'il y avait une entente. Là, on a un Jadot qui arrive quand même très très fort, qui risque d'avoir en plus une répercussion des voix des 3e et 4e derrière lui peut-être à la finale. Qu'est-ce que pense Anne Hidalgo?
Je serai Anne Hidalgo, j'enverrai des militants socialistes torpiller cette élection des Verts et voter massivement pour Sandrine Rousseau.
Le sondeur.
C'est vrai que quand on regarde le rapport de force, quand on
regarde là, c'est la pas vision 74 que vous nous faites, Alexandre de Vecchio, c'est 80.
Quand on, oui, fais la référence.
C'est,
bravo.
C'est Chirac qui torpille Valérie Giscard d'Estaing.
Oui, quand on voit la vision programmatique, c'est vrai qu'Anne Hidalgo aurait plus intérêt à une victoire de Sandrine Rousseau et voir revenir à elle un électorat écologiste qui ne sera pas dans une logique de radicalité si forte. Allergique à la pensée woke, parce que s'il y a une différence très forte entre Anne Hidalgo et une partie des Verts, c'est qu'elle, elle est très universaliste, elle a donné des gages sur la question laïque, alors que chez les Verts, il y a vraiment, comme à la France Insoumise, il y a vraiment un courant, voilà, pour être très schématique, anti-Charlie, très woke. Donc voilà, elle a vraiment, je pense, intérêt plutôt à une victoire de Sandrine Rousseau. Mais vous savez, une campagne électorale, on fait des stratégies, on échafaude toute une série de constructions. Ce qui compte, c'est les électeurs. Ce qui compte, c'est la dynamique électorale. Et on ne peut pas savoir à 6 mois et demi ce qui pourra se passer.
Je vous rappelle donc les résultats de cette primaire. 27,7% pour Yannick Jadot, 25,14% pour Sandrine Rousseau, 22,3% pour Delphine Bateau et 22,2% pour Éric Piolle. Les deux finalistes, vous l'aurez compris, sont Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. On continue juste après la pause de parler d'écologie avec cette ville sans voiture. Alors il y a Paris, mais il y a aussi Bordeaux, il y a Lyon, il y a plein d'autres villes dont on va parler. Et peut-être que vous êtes tombé dedans. Et peut-être que vous trouvez ça bien et peut-être que vous trouvez ça pas bien. On en parle avec nos débatteurs juste après ça.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Alors, à table, nous avons dans les débats d'Europe Soir Alexandre de Vecchio, mon confrère du Figaro, le directeur général du Pôle Opinion à l'IFOP, Frédéric Dabi, que vous connaissez bien, l'adjoint au maire de Colombes, Europe Écologie Les Verts, en tout cas apparenté à ce parti dont on a beaucoup parlé à l'instant, Alexis Bachelet, et Isabelle Florenne, qui est députée Modem des Hauts-de-Seine. Alors, je le disais, la journée a été tellement verte que Paris, Bordeaux, Strasbourg, Clermont, Lyon, Angers et d'autres villes encore ont interdit la circulation automobile dans l'enceinte de la ville. Seuls les taxis, les professionnels sur les marchés, les dépanneurs et véhicules de sécurité pouvaient rouler. Et vous aussi, avec votre automobile, si vous rentriez chez vous par le chemin le plus court. Même en taxi, certains ont fait des zigzags, car on sait que les grandes places, notamment à Paris, comme l'Étoile, comme le Trocadéro, comme le Champ de Mars, étaient fermées en amont parce que c'était l'occasion de faire des concerts, des festivités. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Je crois qu'Alexandre de Vecchio a passé une bonne partie à explorer toutes les lignes de métro qui étaient bondées.
Oui, qui était bondé pour venir à Europa. J'avoue, j'avais tellement peur d'être en retard que je suis parti. J'ai mal calculé, je suis parti avec une heure d'avance sur mon temps de trajet prévu. J'ai bien fait parce que j'ai mis une heure et demie pour venir. donc oui, non, il y a un côté. Si on veut éradiquer la voiture de Paris, il faut le dire. À un moment donné, il faut être clair. Bah oui, il faut l'interdire à ce moment-là. Il faut aller jusqu'au bout.
C'est
une manière d'interdire la
voiture.
On y va progressivement. Bon, mais là, on a vu que à ce moment-là, faut assurer dans les transports autour. Et puis, il y a quand même des gens qui travaillent. Il y a des banlieusards qui viennent à Paris. Moi, ce qui me surprend toujours avec la politique d'Anne Hidalgo, c'est que c'est une politique violemment antisociale. On est dans une ville aujourd'hui qui est réservée aux ultra riches, qui ont les moyens d'habiter à Paris, de se passer de la voiture. Mais Paris n'appartient pas seulement aux Parisiens, ça appartient à toute la France. Donc, je pense qu'il faudrait en prendre un peu conscience. Et ensuite, est-ce que sur le plan écologique, ce type de journée sans voiture, ça fonctionne? Il y avait des places, vous l'avez dit, les places où on avait des concerts, où il y avait des policiers partout pour bloquer les rues, interdire la circulation, mais tout autour, ça créait des embouteillages montres. Je crois que vous l'avez aussi constaté avec votre taxi. Donc, je suis pas sûr que le gain écologique soit vraiment là.
Alexis Bachelet, vous vous sentez antisocial? Et vous gardez votre sang-froid?
Voilà, il faut garder son sang-froid dans la mesure du possible, et même quand Paris est fermé à la voiture, ce qui était le cas une grande partie de la journée aujourd'hui. Après, bon, c'est des choses qui existent depuis quand même fort longtemps. Moi, je sais que les premières opérations en ville sans ma voiture, puisque ce n'est pas seulement Paris, hein, c'est nationalement, il y avait eu des tentatives de il y a une vingtaine d'années déjà de
Dominique Voynet.
Voilà, à l'époque, exactement. Dominique Voynet, merci Frédéric pour la précision, mais c'est exactement ça. C'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Et à l'époque, beaucoup de villes débutaient dans l'expérimentation. On va fermer quelques rues pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on pourrait quand même, etc. Et aujourd'hui, on passe de l'expérimentation à la mise en place de zones plus piétonnisées à l'intérieur des villes. C'est le cas chez moi à Colombes. On a piétonisé une partie de notre centre-ville il y a déjà fort longtemps. Et alors que tout le monde disait que ça serait catastrophique, ça s'est très, très, très bien passé. Les commerçants qui étaient tous inquiets, aujourd'hui, ça marche très bien. La rue a retrouvé un nouveau dynamisme avec des terrasses, avec des familles, avec les poussettes qui ne pouvaient pas venir avant. Et donc, là, par exemple, aujourd'hui, on s'est inscrit, non pas dans la fermeture de la ville, parce que c'est un peu compliqué, mais on a fermé certaines rues pour faire redécouvrir aussi dans un quartier. Vous n'imaginez pas, quand vous fermez une rue à la circulation automobile, les gens redécouvrent leur ville et leur quartier. Et les commerçants mettent des terrasses, on sort des chaises, on installe des choses, etc. Et les gens se disent, quand même, c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça. La voiture, c'est quand même une pollution visuelle et sonore dans nos villes.
Pas les électriques.
Elles sont garées partout.
Pourquoi est-ce qu'on interdit aussi les voitures électriques dans le dispositif?
On ne va pas rentrer dans le détail. Je pense que ça pourrait se réfléchir. Voilà, ça pourrait se dire. On pourrait se dire.
C'est intéressant de vous l'entendre dire.
De toute façon, il y a déjà une logique avec l'installation de la zone de faible émission. Vous savez, dans Paris, puis maintenant dans la métropole du Grand Paris.
Les ZFE.
C'est que petit à petit, on va retirer de la circulation les véhicules les plus polluants, diesel, avec les particules fines, etc. Et on incite effectivement à aller vers une motorisation, des motorisations moins polluantes. Et d'ailleurs, je note que les Français, moi, dans mon département, on est le département le mieux équipé en voiture électrique.
Les Hauts-de-Seine.
Ouais. Donc, il y a déjà aujourd'hui beaucoup de Français qui, au moment de renouveler leur automobile, se posent la question.
Alors,
hybride, électrique, voiture thermique, et beaucoup soit passent à l'électrique.
Sur les Hauts-de-Seine, je crois que les chiffres sont un peu, entre guillemets, biaisés, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans les Hauts-de-Seine, et on sait que les entreprises incitent maintenant dans leur flotte,
dans leur parc automobile,
pour leur flotte, justement, de prendre des voitures hybrides, électriques, etc. Isabelle Florenne, vous faites le même constat, vous
Oui, moi je trouve les initiatives de villes comme... Colombes, par exemple, intéressante, mais on ne peut pas comparer quand même tout à fait...
Le petit territoire de Colombes,
oui,
au
voilà,
Grand Paris.
Moi, je trouve ces initiatives de fermer certaines rues et tout à fait bien intéressantes pour les habitants. Mais là, moi, ce qui m'a gênée aujourd'hui, outre les embouteillages, effectivement, pour arriver... Ça fait des engorgements en amont, ça pose la question. Après, c'était quand même les journées du patrimoine. Aujourd'hui, la concomitance, moi, me dit que le patrimoine de Paris, c'est le patrimoine des Français. Il doit être accessible au plus grand nombre et pas qu'aux Parisiens non plus. Donc moi, dans ces journées-là...
Il y avait un monde fou
aux
Champs-Élysées, par exemple, aujourd'hui.
Oui. Qui était venu en transport en commun.
Oui, très bien.
Les gens disaient, ils étaient contents. Moi, j'ai vu des reportages. Les gens étaient vraiment ravis de marcher au moins une fois par an. C'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois.
Fermeture des Champs-Élysées à la circulation et autre chose que fermeture de Paris à la voiture, fermeture des accès de Paris à la voiture. Parce que moi, en attendant, dans le 15e arrondissement, j'ai pas vu beaucoup de vélos dans les rues adjacentes ici au studio.
Paris respire.
Moi, ce qui me gêne surtout dans ces décisions, globalement, plus largement, c'est le manque de concertation. Au niveau métropolitain et au niveau régional, de la mairie de Paris et d'Anne Hidalgo en général. On décide pendant le confinement de faire des pistes cyclables, on met une piste cyclable sur le pont de Suresnes sans discuter avec la mairie de Suresnes et on le met du mauvais côté et on engorge in fine la circulation.
C'est amusant, j'ai l'impression qu'il y a eu ce même débat lors des autolibes, quand on a supprimé justement les autolibes.
C'est vrai.
Il y a donc un manque récurrent de concertation avec la mairie de Paris.
Nous demandons, il y a 7 millions finalement de banlieusards qui viennent à Paris chaque jour quand même. Donc il faut quand même se poser la question de cette discussion avec la mairie de Paris. Je sais que c'est un débat sur lequel malheureusement on n'a pas pu avancer durant ces 4 ans, sur lequel je fais partie d'un certain nombre de députés où nous aurions aimé avancer sur une meilleure gouvernance partagée. Quand je dis ça, c'est tout simplement des prises de décision communes pour avancer sur cette question finalement qui nous concerne tous, qui est la question du défi climatique.
Pas d'accord, Alexis Bachelet ?
J'apporterai juste un bémol, parce qu'il faut quand même rappeler que On n'est plus dans la situation depuis maintenant 4 ans. La création de la métropole du Grand Paris, c'est une réalité.
Donc,
avant, il n'y avait pas d'institution pour discuter entre Paris et la proche banlieue. Aujourd'hui, il y a une métropole, tous les maires y siègent. Et Anne Hidalgo, d'ailleurs, c'est pas Anne Hidalgo qui la préside, cette métropole, c'est Patrick Ollier qui est maire de Rueil, que Isabelle doit connaître, puisque c'est la ville voisine de Suresnes. Et donc, il y a une gouvernance, on va dire, plurielle, hein, avec des élus du droit, du centre, de gauche et des écologistes. Et par exemple, la zone de faible émission, c'est pas la ville de Paris qui l'a imposée à la banlieue, c'est les maires du Grand Paris qui l'ont voté au sein du Conseil métropolitain après un grand débat. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer la gouvernance de la métropole parisienne. Elle est, c'est vrai, insatisfaisante. Elle est sans doute très perfectible, mais elle n'est plus inexistante. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle est vice-présidente de Patrick Ollier, et sur un certain nombre de sujets, les maires se parlent et discutent. Après, ils ne sont peut-être pas toujours d'accord sur ce qu'il convient de faire. Mais ne disons pas non plus qu'il y a zéro dialogue et que tout est imposé par la ville-centre, parce que ça n'est plus vrai. Ça n'est plus vrai. Parce que la raison même de la métropole du Grand Paris, c'est justement que Paris puisse mieux travailler avec les villes voisines.
Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est que ce matin, David Belliard, adjoint à la mobilité à la mairie de Paris, précise les contours de la future ZTL. C'est plus une ZFE, c'est la zone à trafic limité qui sera mise en place à partir du, tenez-vous bien, second semestre 2022. C'est pas dans 10 ans, hein, c'est l'année prochaine. Elle s'étendra du boulevard Saint-Germain à la place de la Bastille, place de la République, boulevard Montmartre et jusqu'à la place de la Concorde. Alors, ZTL, trafic limité, ça veut dire en gros, ce qu'on a, grosso modo, ce qu'on a connu aujourd'hui dans la journée sans voiture. Hein. Et là, il y a un blanc. Là. Il y a un silence.
Non, mais... j'ai pas encore parlé sur ce sujet. Je trouve très, très intéressant ces échanges sur, oui, gouvernance ou pas gouvernance, est-ce qu'on concerte ou pas. C'est vrai que quand on interroge les Parisiens, vraiment les Parisiens, ils approuvent à une nette majorité, mais pas une majorité écrasante. N'oublions pas que Paris est toujours coupé, fait politiquement d'est en ouest, hein. Est, nord et sud plutôt à gauche et ouest parisien plutôt à droite. Et il n'y a pas eu, il n'y a quasiment pas eu de changement depuis très longtemps. Alors, c'est relativement
figé. Ça dépend des classes d'âge. Hein, quand vous interrogez les très âgés, ils aiment bien quand même circuler en automobile.
Ah mais oui, qui sont plus souvent dans l'ouest parisien. Non mais il y a vraiment, il y a un clivage politique, vous avez raison de le dire, et un clivage générationnel. C'est vrai que lors des élections, enfin, municipales, on ne peut pas dire qu'Anne Hidalgo n'ait pas annoncé la couleur sur la piétonnisation, sur la poursuite de la limitation de la place de la voiture. Elle a gagné cette élection. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut dire, oui, une abstention forte. Mais je l'avais dit ici, à ce micro, qu'on avait débattu il y a 15 jours sur les 30 km/h. Si nous commençons, nous, à dire une élection ne vaut rien parce qu'il y a tant d'abstention, ben, on tire une balle dans le pied dans la légitimité démocratique. Maintenant, j'entends ce que dit Alexandre Devecchio. C'est vrai que Paris n'est pas une ville comme les autres. Et, non, mais je l'aurais dit en tant que citoyen, c'est la ville monde, c'est la ville capitale. Oui. J'ai vu passer...
Certains disent, imaginez New York piétonné.
Voilà. Oui, voilà. Ouais. Mais oui.
On a piétonnisé Times Square quand même.
Voilà.
Et le maire à l'époque s'est pris des tas d'injures. C'est scandaleux. Comment on allait que de New York s'est défiguré.
On va mettre du pont de Brooklyn jusqu'au fin fond d'Arlem.
Mais Frédéric Dabi pose la vraie question. Paris, d'ailleurs, n'a pas toujours eu de maire. Il y avait des maires d'arrondissement, bien mais sûr. Pas de maire jusqu'en 1976. Et moi, je trouvais que c'était... je suis un peu réactionnaire là-dessus. Ah bah, et je pense que c'est pas c'est forcément régressif. Un progrès démocratique, finalement, qu'on ait des grands élus comme ça, qui se comportent un peu comme des féodaux. Je suis désolé.
Ils peuvent être sanctionnés par...
Alexandre Devecchio.
Excusez-moi.
Allez jusqu'au bout.
C'est vrai.
Et ça s'inscrit aussi, je rejoins Frédéric Dabi, dans une évolution mondiale avec des métropoles monde qui ont quasiment plus de poids, j'exagère peut-être un peu, mais que des États. Enfin, ça pourrait être le monde du futur avec des grandes métropoles et des grands féodaux plutôt que des États-nations avec des chefs d'État. Ça s'inscrit dans un processus d'archipélisation et de décomposition du territoire. Et il faut y être attentif parce qu'il y a les phénomènes de partition qu'on observe dans certaines banlieues avec du communautarisme, etc. Une France périphérique ou rurale qui se sent méprisée et des métropoles qui vivent de plus en plus sur elles-mêmes en oubliant qu'elles sont dans un grand pays qui s'appelle la France.
Réaction là-dessus, Alexis Bachelet.
Ma réaction, c'est plutôt par rapport à l'évolution des mobilités dans un grand pays comme le nôtre, et en particulier dans les métropoles et dans les cœurs de métropoles. C'est que d'abord, c'est une tendance assez mondiale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes.
Ça, c'est ce que je disais.
Il y a beaucoup de villes qui s'engagent, et qu'à Rome, par exemple, les conditions de circulation sont très restrictives. Les zones à trafic limité, elles existent déjà. Et pourquoi ? Pour lutter contre la pollution de l'air. Il faut se rappeler que la France a été condamnée pour insuffisance de mesures par rapport aux particules fines. Et il y a environ 40 000 personnes qui décèdent à cause des suites de ces pollutions atmosphériques. Donc après, on peut effectivement ergoter, polémiquer, essayer de ralentir, de freiner la tendance qui est à la décarbonation des mobilités. Non, mais... En ajoutant en plus que Paris est quand même une ville qui est particulièrement, bien dotée en transport en commun, avec un réseau de métro qui est un des meilleurs du monde, avec complété par des bus, complété maintenant par des pistes cyclables, etc. Donc à un moment donné, l'obsession de protéger la voiture à tout prix, c'est plus possible, c'est plus entendable.
Voilà,
c'est
Isabelle Florent n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi
dans les maires qui ont été élus, on parle de la métropole parisienne, il y a une conscience maintenant, il faut arrêter. Ils travaillent tous sur des plans air-climat depuis des années. Dans des conseils qui vont jusque dans les conseils de quartier.
Arrêtez de taper sur la table, elle ne vous a rien fait.
Mais on travaille sur ces sujets, donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de prise de conscience, quelle que soit l'orientation politique maintenant des maires, en tout cas dans la région parisienne, mais partout, on les connaît, ces questions de changement climatique. Moi, ce que je dis simplement, c'est que par rapport toujours à ces questions de prise de décision, ça nécessite quand même de la concertation. Et ce qu'on reproche, et ce que reproche, moi je parle des gens que je rencontre, hein, c'est l'empilement, la superposition des niveaux de décision. Mm-hmm. Et ça, Alexis Bachet, vous le savez très bien, c'est les conseils départementaux, c'est maintenant la métropole du Grand Paris, c'est Paris d'un côté, c'est les communes d'un autre, c'est la région.
On va remettre en cause la décentralisation.
En tout cas, sur la région Île-de-France, c'est un vrai sujet. Notamment sur ces questions. Pour les habitants, c'est des vrais sujets, parce qu'après, ça touche à la mobilité, bien entendu. On est d'accord, et les mairies sont d'accord, pour travailler sur les mobilités douces, investissent dans des changements, notamment de véhicules électriques, que les gens sont prêts maintenant à s'équiper. Mais il faut quand même bien dire que Madame Hidalgo et que les parkings parisiens, moi je pratique la voiture électrique depuis 4 ans, je peux vous dire, c'est une galère. C'est une vraie galère à Paris pour aller recharger dans un parking géré par un concessionnaire qui a un contrat de concession avec la ville de Paris. On commence à voir maintenant s'étendre un petit peu plus sous l'effet des constructeurs, parce que les constructeurs s'y mettent, le parc automobile électrique s'étend, on commence enfin à voir à Paris un peu plus de bornes électriques. Tout ça, c'est du quotidien des gens.
Et certaines commencent à marcher, parce que c'est vrai que sur 30 000 bornes en France, je crois que les dernières statistiques, c'est que la moitié ne fonctionne pas.
Absolument, il y a le problème de fonctionnement, il y a le problème de sous-dotation de la région parisienne. C'est des sujets que j'ai particulièrement suivis avec la ministre et sur lesquels on s'est battu pour notamment permettre l'équipement en copropriété qui n'était pas et qui n'est toujours pas si simple. Donc vous voyez, ça c'est du quotidien des gens. Voilà, moi ce que je veux dire par rapport à l'écologie, c'est que nous, au Modem et dans la majorité, on essaye de travailler sur le quotidien justement des solutions, sur les solutions pour les citoyens.
En 10 secondes. Un mot très court sur la transition numérique dont on nous rebat les oreilles, la transition numérique et les voitures électriques. Il se trouve que c'est également très polluant parce que c'est fait avec des métaux rares, etc. Donc il y a aussi une illusion que le tout électrique va être moins polluant. Il faut la produire, l'électricité, je le rappelle.
Alexandre Devecchio, Frédéric Dabi, Alexis Bachelet, Isabelle Florenne, vous revenez après le journal de 19h. On parlera de la crise des sous-marins. Car d'une part, Jean-Yves Le Drian a de nouveau haussé le ton hier soir, et d'autre part, Scott Morrison, le Premier ministre australien, affirme ne regretter en rien son choix. On en parle juste après le journal de 19h. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, 18h-20h.
Pierre de Villeneuve.